Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. François II rugit encore. L'ex-ministre de l'Intérieur, de l'Écologie, pardon, invité ce soir du journal de France 2, s'estime blanchi après les enquêtes diligentées par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Décryptage de cette séquence médiatique signée Maxime Fayolle. Le CETA, ratifié cet après-midi par les députés, certes, mais le vote fait apparaître de grosses lézardes dans la façade de la majorité macroniste. Stéphane Robert a fait les comptes. Les institutions européennes ne disent pas forcément welcome à Boris Johnson. Le chef de file du Brexit, coûte que coûte, inaugure demain son nouveau costume de Premier ministre. Nous retrouverons Pierre Benazet à Bruxelles. Et puis la disparition de Li Peng, grognard du Parti communiste chinois à l'âge de 90 ans. Il fut l'un des artisans principaux de la répression du printemps de Pékin il y a 30 ans. Rappel historique signé Angélique Forget en fin de journal. François de Rugy s'est exprimé ce soir pour la première fois depuis sa démission de numéro 2 du gouvernement sur le plateau du journal de 20h de France 2. L'ex-ministre de l'écologie n'a pas attendu longtemps, faut bien le dire, pour se présenter en victime du journalisme de démolition, comme il le dit, puisque les rapports qui le dédouanent, selon lui, des accusations portées à son encontre, ont été rendus publics aujourd'hui même. Des rapports contestés par ailleurs par une partie de l'opposition. Maxime Fayolle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette prestation télévisée sous forme de contre-offensive.
Et oui, offensif, l'ancien ministre n'a même pas cherché à répondre à la première question du journaliste de France 2, cherchant d'emblée à faire passer son message.
Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Je vais vous dire, je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté.
François de Rugy fait référence ici au rapport de Matignon et de l'Assemblée nationale qui précise, selon lui, qu'aucune irrégularité ne lui est reprochée.
Tous les dîners sur lesquels Mediapart m'avait attaqué sont des dîners qui étaient dans le cadre de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale.
Et pourtant, trois dîners sont bien d'ordre privé, et ça, même le rapport de l'Assemblée nationale le souligne. Sur ce point, François de Rugy ne veut pas reconnaître une erreur.
Je me conformerai à ce que a dit le rapport de l'Assemblée nationale, et donc je suis invité, comme je l'ai souhaité, à me mettre en relation avec les autorités compétentes de l'Assemblée qui établiront le montant des frais et je les réglerai.
Et pourtant ce soir, Mediapart enfonce le clou avec de nouveaux articles sur ces dîners, avec des interviews de participants qui confirment le caractère privé, un véritable acharnement pour l'ancien ministre.
Oui au journalisme d'investigation, non au journalisme de diffamation. Parce que je vais vous dire une chose. La République de la délation, la République de la diffamation, ce n'est pas la République.
François de Rugy parle de diffamation, pourtant tous les chiffres publiés par Mediapart ont été confirmés par les différents rapports sur lesquels il s'appuie. L'ancien ministre affirme toutefois avoir déposé plainte.
Maxime Fayolle, merci pour ce décryptage. Le CETA, traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, adopté par les députés, c'était joué d'avance. Ce qui l'était moins, c'est le degré de réticence enregistré à l'occasion du vote dans les rangs de La République en marche. Eh bien Stéphane Robert, au bout du compte, l'esprit de corps a quelque peu volé en éclats. Aujourd'hui, le texte n'a pas vraiment été plébiscité par la majorité.
Non, le CETA a été ratifié avec 53 voix d'avance, 266 pour, 213 contre, et puis on a compté 74 abstentions, notait tout à l'heure le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Daniel Fasquel.
Ça passe, mais de peu, hein. Le coup passe à si près que le chapeau tombe bas.
Pour le député de Seine-et-Marne et patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, le résultat du vote signifie qu'un malaise s'est exprimé au sein de la majorité.
C'est plus serré que prévu, effectivement, ce qui veut dire qu'il y a une part de la majorité qui est aujourd'hui très troublée et qui, en réalité, a de plus en plus de mal à assumer ce « en même temps ». Le matin avec Greta Thunberg, l'après-midi, à voter le CETA. En même temps, écoutez ce que je dis et en même temps, ne regardez pas ce que je fais. C'est ça la réalité d'En Marche aujourd'hui et donc c'est toute la difficulté pour eux.
Pour avoir une idée plus précise de ce qui s'est passé, faisons les comptes pour la majorité. Certains députés ont voté contre, 9 à La République En Marche, 2 au Modem et surtout ils sont 58 à s'être abstenus, 6 au Modem, 52 chez les marcheurs, notamment la députée du Bas-Rhin, Martine Vonner, afin de marquer son désaccord sans toutefois franchir le Rubicon.
Je m'abstiens, ce qui est un vote fort quand on fait partie d'une majorité. Ce sont des alertes très fortes, mais qui permettent aussi de ne pas ni brusquer, ni de brutaliser, mais de faire passer des messages.
Au bout du compte, la logique politique a été respectée et le CETA a été ratifié, mais on a effleuré les limites du « en même temps » macronien. Et il faut croire qu'à la question « est-il possible de concilier croissance économique et lutte contre le réchauffement climatique ?» Certains n'ont plus tout à fait la réponse.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Le jour où le CETA est adopté par les députés, jour de canicule sur l'ensemble de l'Europe occidentale, une allumette suédoise allumait le feu des débats. Greta Thunberg, 16 ans, porte-parole de la jeune génération préoccupée par le réchauffement climatique, était invitée d'un groupe de députés pour un débat aujourd'hui au Palais Bourbon. À l'issue des échanges, la jeune militante a résumé sa pensée par cette phrase lancée aux députés. « Au lieu de nous féliciter, essayez de faire quelque chose. » Fin de citation. Le Parlement a également adopté cet après-midi par un ultime vote du Sénat le projet de réforme de la fonction publique. Elle vise à faciliter l'embauche de contractuels et une plus grande mobilité des fonctionnaires. Un texte réfuté, refusé tel quel par les 9 syndicats de fonctionnaires qui fixent d'ailleurs un rendez-vous revendicatif à la rentrée de septembre. Pour en finir avec l'actualité parlementaire du jour, décidément très copieuse, ajoutons qu'a été adopté également le principe d'un droit voisin au droit d'auteur pour les groupes et agences de presse. Il s'agit pour eux d'être mieux rémunérés par les géants d'Internet comme Google et Facebook quand ceux-ci reprennent des contenus à leur compte. C'est une question de survie économique pour la presse indépendante alors que les GAFA captent 90% des revenus en ligne. Cette loi transcrit une directive européenne adoptée en mars dernier dans la législation française. Demain, Boris Johnson prendra officiellement ses fonctions de Premier ministre après la traditionnelle visite à la reine Elisabeth II. Élu à la tête du Parti conservateur avec 66% des suffrages, le plus dur est devant lui. Il a beau affirmer que le Brexit sera mis en œuvre le 31 octobre, accord ou pas avec Bruxelles, Bojo, comme il est surnommé, va devoir livrer une bataille féroce, y compris dans son propre camp, du côté des institutions européennes. Leurs responsables se sont contentés aujourd'hui du service, disons, minimum, en guise de message de félicitations. Pour eux, Boris Johnson, Pierre Benazé, c'est le scénario du pire.
Pour les Européens, l'arrivée de Boris Johnson à Downing Street, c'est le scénario catastrophe. Jusqu'à la démission de Theresa May, cette éventualité était même ici une plaisanterie de mauvais goût. Boris Johnson traîne derrière lui une réputation sulfureuse, d'abord comme correspondant de presse à Bruxelles, inventeur d'euromythes, des affabulations sur d'imaginaires normes européennes de courbure des bananes ou de taille des préservatifs. Boris Johnson a aussi la réputation récente d'un ministre des Affaires étrangères incohérent et brouillon, et son image pâtit aussi de déclarations à l'emporte-pièce, comme sa comparaison entre l'UE et le Troisième Reich. Il n'est pas considéré ici comme europhobe, on estime plutôt qu'il peut facilement changer d'avis sur tous les sujets. Mais la grande crainte des Européens, c'est surtout qu'il entraîne son pays vers un Brexit sans accord le 31 octobre, ce qui signifierait une absence de garantie pour les droits des citoyens, une situation intenable à la frontière irlandaise et une absence de règlement financier. La perspective de devoir négocier avec Boris Johnson la future relation euro-britannique donne déjà des frissons aux responsables européens. Ils espèrent pour l'instant lui faire entendre que s'il n'accepte pas de régler les dettes du Royaume-Uni envers l'UE, il lui sera impossible de négocier un accord de libre-échange euro-britannique.
Pierre Benazet à Bruxelles. Nissan s'apprêterait à supprimer 10 000 emplois dans le monde. Selon une agence japonaise, le constructeur automobile enregistre de mauvais résultats qu'il impute d'ailleurs en partie à Carlos Ghosn, l'ancien président de l'Alliance Renault-Nissan. La mort de Li Peng, l'une des grandes figures politiques chinoises de ces dernières décennies. L'ancien Premier ministre est décédé à l'âge de 90 ans. Son nom reste attaché à la sanglante répression du printemps de Pékin en 1989. Li Peng, qui ne jurait que par la stabilité sociale, était un gardien du temple communiste qui s'est transformé en impitoyable gardien de l'ordre. En ligne de Shanghai, Angélique Forget.
Pour la presse officielle chinoise, Li Peng est un guerrier communiste loyal et un dirigeant remarquable du parti et de l'État. Pour les étudiants de la place Tiananmen, il est l'un des premiers responsables du massacre survenu il y a 30 ans et qui a fait des milliers de morts. Le soir du 19 mai 1989, c'est lui qui, après avoir accepté un débat animé avec des étudiants, annonce l'instauration de la loi martiale. Premier ministre de 1987 à 1998, ces dernières années, il n'est apparu que rarement en public, mais en 2010, son nom fait un retour sur le devant de la scène lorsque ses supposées mémoires fuitent sur Internet. Il y justifie notamment la répression du 4 juin. En plus de ce bain de sang, Li Peng laisse derrière lui une controverse, la construction du barrage des Trois Gorges, le plus grand du monde, un projet qu'il a toujours défendu et qui a nécessité le déplacement de plus d'1,5 million de personnes et qui présente des risques environnementaux.
Li Peng disparu donc à l'âge de 90 ans. Du jamais vu par Météo France, 80 départements placés aujourd'hui en vigilance orange canicule, seuls épargnés l'ouest de la Bretagne, la côte méditerranéenne et la Corse. Des records de température ont été battus cet après-midi, par exemple 41,2 degrés à Bordeaux, plus de 40 degrés à Rennes. Demain, ce sera la poursuite de cette vague caniculaire, mais plus instable, avec des orages, des averses le matin dans l'ouest, l'après-midi sur l'est de notre pays. Température maximale largement au-dessus de 30 degrés, sauf aux abords de la Manche, jusqu'à 40 dans l'est, en Provence et Rhône-Alpes. C'est la fin de cette édition, préparée avec Benjamin Ducy. Bonne fin de soirée à l'écoute, on the rocks, de France Culture.